Comme il a été dit, la problématique que je m'apprête à exposer ici découle plus largement de celle de mon projet doctoral. Ce sont en effet les grandes lignes de ce projet qui me serviront d'introduction et cela me permettra aussi de mieux situer ce questionnement sur le statut du passé des lettres, du passé de la littérature, plus particulièrement sur celui du roman, sur lequel discourent librement ceux que j'ai coutume d'appeler, tout simplement, les romanciers essayistes. Donc, je travaille dans le cadre de mes recherches doctorales sur la pratique de l'essai sur le roman par des romanciers et romancières françaises depuis les années 60, c'est-à-dire après le moment phare du nouveau roman, jusqu'à ses plus récentes manifestations, en l'occurrence 2017, à l'intérieur de la tradition française. Il s'agit donc d'un corpus assez vaste, près de 25 titres à ce jour, je n'en convoquerai ici que quelques-uns, ne vous inquiétez pas, et qui ne cesse de croître avec la découverte de textes un peu plus marginaux, moins connus, qui n'ont pas vraiment eu de réception critique. Et ce corpus croît donc malgré mes critères baliseurs assez rigides, dont les plus importants sont les suivants. Une perspective praticienne, hein, ces textes doivent avoir été écrits par des écrivains, se considérant d'abord comme des romanciers, et ce, sans égard au nombre d'œuvres romanesques publiées, ni à l'importance qu'ont ou qu'ont eu ces mêmes œuvres sur la scène littéraire. L'objet, ces textes doivent porter sur le roman en tant qu'art ou en tant que genre, et non plus généralement sur la littérature, sur des romanciers spécifiques ou encore sur un type de roman en particulier. Leur matérialité, ces textes doivent exister en tant que livre. Je déconsidère donc les innombrables publications en revue, demeurées en revue, où des romanciers s'expriment sur le genre littéraire qu'ils pratiquent. Leur histoire éditoriale, donc si les ouvrages en question proviennent de textes épars, ceux-ci doivent avoir été réunis, rassemblés par leur auteur et non par une volonté éditoriale posthume, dans le but de produire un livre. Ils se voient donc souvent accompagnés d'une préface englobante, porteuse de ce que la critique Irène Langlais nomme une déclaration de littéralité. Pourquoi s'intéresser à cette pratique depuis les années 60? Eh bien, de Marmontel à Zola, en passant par Sade et Madame de Staël, il existe depuis au moins deux siècles dans la tradition française un corpus antérieur d'essais sur le roman. Il est vrai aussi que la forme de la préface a longtemps été investie, et tout particulièrement au 19e siècle, comme lieu de réflexion esthétique et historique sur le genre du roman. En outre, apparaissent dans les années 1920-1930 une pléthore, une série d'essais sur le roman, pour ne nommer que l'essai sur le roman de Georges Duhamel, 1925, ou le roman de François Mauriac, 1928, dans la foulée de ce que Michel Raymond a nommé « la crise du roman ». Or, ces textes demeurent marqués par un nationalisme littéraire flagrant, dans la mesure où il s'agit d'abord de réfléchir au roman français, tout en continuant de privilégier la voie de l'analyse psychologique. Surtout, ces textes produits dans les années 20, qui constituent certes une première vague d'essais sur le roman, ne seront à peu près jamais convoqués dans la discussion qui commence après la Seconde Guerre mondiale. En effet, on assiste, disons une dizaine d'années après la guerre, à une vive polarisation du champ littéraire qui pointe vers ce que l'on peut appeler, suivant Dominique Villard, comme une seconde crise du roman, avec d'un côté, pour schématiser un petit peu, l'existentialisme et l'appel à l'engagement, de l'autre, les formes militantes du non-engagement, selon l'expression de Dominique Villard. À ce camp participent aussi bien les nouveaux romanciers que ceux que l'on peut appeler les hussards, de même que les romanciers sans affiliation, comme Romain Gary. Ce camp est donc lui-même extrêmement divisé, car le nouveau roman, en jetant un soupçon sur le genre romanesque, et sur ses principes les plus fondamentaux, a engendré, généré la nécessité d'une réponse. Plus particulièrement, tout porte à croire que c'est la publication en recueil des articles de Nathalie Sarraute, parus antérieurement en revue formant désormais l'art du soupçon, qui inaugure un nouvel espace discursif, celui d'une réflexion sur le contenu et la forme du roman, par les romanciers eux-mêmes, prenant place dans la forme longue qu'est l'essai. En nommant la période à laquelle il donne le coup d'envoi, une ère justement dite du soupçon. En effet, on note à sa suite la publication d'un nombre considérable d'essais sur le roman, la plupart entrant en dialogue, de manière frontale ou détournée, avec les idées et principes esthétiques défendus par Nathalie Sarraute et plus généralement avec l'esprit du nouveau roman, incarné bien sûr par une autre figure forte, celle d'Alain Robbe-Grillet. Rappelons que ce dernier, dans un court texte de 1957 sur quelques notions périnées, repris dans son essai pour un nouveau roman en 1961, avait dit « désuète et dépassée » certaines notions clés du roman, comme le personnage et l'histoire, en plus de déclarer, dans cette phrase désormais célèbre, « raconter est devenu proprement impossible ». C'est là le début d'une longue discussion qui en témoigne l'apparition d'un essai contemporain au titre très évocateur, « Rouvrir le roman », n'est pas encore terminé et sans doute loin de l'être. Il faut dire que le ton est assez violent en ce qui concerne les textes produits dans les années 1960 et 1970, où il s'agit de défendre directement les notions de personnage et d'intrigue. Ainsi, l'essai « Paradoxe sur le roman » de Kleber Heidens, qui découle d'un texte antérieurement paru dans les années 40, se voit remanié, bonifié et republié dans les années 1960 pour réagir directement à l'essor du nouveau roman, qualifié de, je cite, « secte ridicule ». Et tout particulièrement aux idées de Nathalie Sarraute, dont il dénonce, je cite, « l'hypocrisie monstrueuse ». De même, on a le sentiment que « Pour Sganarelle » de Romain Gary, texte de 1965, le plus long de mon corpus, donc plus de 550 pages, a été tout entier écrit pour réagir au nouveau roman. En effet, Gary, qui par ailleurs n'hésite pas à traiter Rob Grier à plusieurs reprises de « banane », enfonce le clou un peu plus loin en faisant de Nathalie Sarraute, je cite, « une précieuse ridicule » et du soupçon, je cite, « une simple affaire de talent ». Dernier exemple, Jacques Laurent, dans son essai de 1977 « Roman du roman », fait valoir que Nathalie Sarraute n'est tout simplement pas romancière, ce qui est par ailleurs la pire insulte qu'un romancier peut faire à un autre romancier ou romancière. Je cite, « les personnages, les dialogues, l'intrigue, la description déplaisent à Nathalie Sarraute, pourquoi pas, mais pourquoi prétend-elle qu'elle écrit des romans ?» Fin de la citation. Le ton finit par s'adoucir à partir des années 1980, car le nouveau roman n'est plus aussi menaçant, mais on peut voir que le soupçon, lui, demeure et finit par être associé aussi bien à Breton qu'à Sartre, Zola, Valéry, Paul Bourget, Taine, c'est-à-dire à diverses figures d'hommes de lettres ayant mis en cause le roman, et à qui, de manière somme toute assez anachronique, il s'agit encore de répondre. Ce soupçon est aussi celui des sciences humaines, de la science tout court, du journalisme, de l'attrait pour le fait vécu, des idéologies politiques, du triomphe du cinéma, etc. Bref, de diverses formes de discours qui placeraient le roman au banc des accusés. Ainsi, il s'agit toujours, et même pour les textes les plus récents, d'émettre un plaidoyer en faveur du roman afin de dire sa pertinence, son actualité brûlante, sa nécessité fondamentale pour l'homme dans sa compréhension de lui-même. Je cite Jacques Laurent et le roman du roman. L'existence du roman prouve qu'il nous manque quelque chose sur la Terre, puisque le roman existe pour combler ce manque. Fin de la citation, phrase rhétorique qui aurait pu prendre place dans n'importe quel autre titre du corpus. Parlons plutôt d'un double plaidoyer dans la mesure où l'on constate que celui-ci est toujours à la fois un plaidoyer en faveur du roman en général et un plaidoyer en faveur d'une conception précise de celui-ci. Exemple, Gilles Barbedette, auteur de L'invitation au mensonge, donc joue l'irréalisme contre le réalisme. Richard Millet, dans L'enfer du roman, plaide pour un travail sur la langue contre le storytelling. Romain Gary milite pour la péripétie contre l'évasion de la théorie, etc., etc. Or, il faut voir que tous ces plaidoyers passent amplement par le récit de l'histoire du roman. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, probable chez certains, inévitable pour d'autres. Comme si, pour définir le roman, les romanciers essayistes n'avaient d'autre choix que de ré-raconter cette histoire, de la réouvrir, comme si celle-ci n'avait pas été écrite des dizaines, voire des centaines de fois. En ce sens, ces textes témoignent d'une volonté claire de la part de leur auteur d'intervenir dans l'histoire du roman, dont ils sentent la profonde nécessité d'une prise en charge. Ces histoires n'étant tenues à aucune rigueur, une liberté qui est à la fois celle que confère le statut d'écrivain et celle qu'offre le genre de l'essai, elle comporte des différences importantes sur le plan des contenus. Exemple, le moment où se voit poser la naissance du roman, le choix des figures importantes, etc. Même Milan Kundera, auteur de plusieurs essais, ne propose pas tout à fait la même version de l'histoire du roman dans chacun d'entre eux. Néanmoins, ces histoires comportent un certain nombre de traits récurrents sur un plan que l'on pourrait dire formel. D'abord, une personnification effrénée du genre romanesque que l'on dote de traits physiques, d'habits, d'un bilan de santé, de traits de personnalité, d'une conscience, de goût, de souvenirs d'enfance. Certains romanciers essayistes ont même accès à son fort intérieur, laquelle renferme, vous le devinerez, une autre histoire du genre romanesque. Ensuite, l'empreinte du schéma de l'aventure. En effet, ces histoires prennent place sur un fond de vive polarisation axiologique entre les braves alliés du genre romanesque et les méchants antagonistes, comme Zola, qu'il s'agit de combattre, alors que les romanciers essayistes mobilisent les principaux topoi des romans d'aventure, des guet-apens, des duels, des espaces dangereux, navigation périlleuse, récits de captivité, à l'intérieur d'une histoire qui est loin d'être un grand fleuve tranquille et qui se joue à mille lieues des maisons d'édition prestigieuses, des mansardes parisiennes et des capitales européennes. Mais s'il s'empare de la sorte et de manière aussi créative de l'histoire du roman, c'est avant tout dans la volonté de la corriger, de la rectifier, de la reconfigurer, produisant du même coup un discours critique très sévère envers une histoire littéraire dite ou posée comme officielle. Je cite Gilles Barbedette dans « L'invitation au mensonge ». Au fond, l'histoire du roman est en grande partie l'histoire d'un malentendu. L'histoire du roman n'est pas la suite sagement alignée de perles réunies par le fil d'un même collier. Non, c'est plutôt l'histoire d'un collier qui n'en finit pas d'égrener des perles dissemblables. Le roman est l'histoire permanente d'un désordre. Et il réitère, je cite, « Il n'y a pas une seule et belle évolution du roman ». Ainsi, et c'est ce qui me fait entrer après ce long préambule au cœur de mon propos principal, si cette portée rectificatrice s'affiche d'une part au niveau des contenus, donc dans la volonté de valoriser des auteurs écartés ou encore d'incriminer certains grands noms de l'histoire littéraire, plus fondamentalement, ce sont les termes mêmes de l'histoire littéraire, envisagés ici bien sûr dans son acception la plus traditionnelle, la plus positiviste, comme si depuis la fin du 19e siècle, l'histoire littéraire n'avait pas vraiment évolué, qui se voit critiqué et refusé. Refus du déterminisme, refus du biographisme, refus de la périodisation officielle, que l'on parle de siècle, de courant ou d'école. Et, c'est ce qui nous intéressera davantage, refus même de la chronologie, et surtout d'une valeur implicitement associée à la chronologie, celle du progrès. Je reprends ici l'exemple de Gilles Barbedette. Je cite « L'histoire officielle s'intéresse toujours au bond en avant, au progrès, jamais aux reculades et aux régressions. L'histoire littéraire n'a pas envisagé les choses autrement. » Fin de la citation. C'est bien sûr évidemment ce que lui entend faire. Je cite également ici Milan Kundera dans son essai « Le rideau ». Appliquée à l'art, la notion d'histoire n'a rien à voir avec le progrès. Elle n'implique pas un perfectionnement, une amélioration, une montée. Elle ressemble à un voyage entrepris pour explorer des terres inconnues et les inscrire sur une carte. L'ambition du romancier est non pas de faire mieux que ses prédécesseurs, mais de voir ce qu'ils n'ont pas vu, de dire ce qu'ils n'ont pas dit. La poétique de Flaubert ne déconsidère pas celle de Balzac, de même que la découverte du pôle Nord ne rend pas caduque celle de l'Amérique. Fin de la citation. À ce titre, on remarque qu'il y a au fond une coïncidence entre la droite chronologique véhiculée par l'histoire littéraire traditionnelle et la version de l'histoire du roman, largement téléologique, proposée par les nouveaux romanciers, à partir justement de cette idée de progrès ou de perfectionnement. En ce sens, et c'est véritablement ma préparation en vue de ce colloque qui me l'a fait découvrir, la contre-offensive qui prend place dans les essais sur le roman publié après le moment phare du nouveau roman et lancé envers les figures fortes que sont Nathalie Sarraute et Alain Robbe-Grillet n'en est pas seulement une relative à la défense du personnage et de l'intrigue, mais est sans doute, et de manière plus sous-jacente et peut-être encore plus fondamentale, un conflit d'historicité. Je cite Kleber Heidens dans « Paradoxe sur le roman ». Ces coqs-aigrus viennent d'une croyance enfantine au progrès en littérature. Les œuvres nouvelles seront forcément tôt ou tard des levains d'émancipation et de progrès, dit Nathalie Sarraute, d'un air bien cornichon. Or, on ne va jamais plus loin en littérature, personne n'est allé plus loin qu'Homère, on va ailleurs, c'est tout. Les romanciers théistes, et tout particulièrement ceux des années 1960 et 1970, refusent de voir en le nouveau roman l'aboutissement de l'histoire du genre romanesque, mais surtout refusent plus généralement leur construction historiographique. En un sens, il s'agit moins de défendre les notions dites périmées, selon les mots de Robbe-Grillet, que d'attaquer l'usage même de cet adjectif. Ce faisant, ils participent à ce grand mouvement qui démarre à partir de la seconde moitié du 20e siècle, qui, comme le souligne Catherine Gosselin, marque sa distance face à une historicité du progrès, alors que les nouveaux romanciers s'ancrent toujours, eux, dans un modernisme assumé. Il faut voir que dans leur volonté de reconfigurer l'histoire du roman et de critiquer l'histoire littéraire traditionnelle ou officielle, les romanciers essayistes s'emploient pour autant à ménager une idée cruciale, celle de la continuité, intrinsèquement liée à l'histoire du roman. Chez Milan Kundera, il est même possible de parler d'une continuité idéale, idéalisée, ou encore même d'un fantasme de la continuité. Je cite son essai L'art du roman. « L'esprit du roman est l'esprit de continuité. Chaque œuvre est la réponse aux œuvres précédentes. Chaque œuvre contient toute l'expérience antérieure du roman. » Fin de la citation. Continuité qui, chez les romanciers essayistes, passe beaucoup moins par un discours sur les siècles ou sur les courants que par l'éloge des figures romancières individuelles. Mais comment dès lors cette critique, qui est à la fois celle d'une historicité progressiste associée au nouveau roman et celle d'une chronologie plate et rigoureuse de l'histoire littéraire traditionnelle, se présente-t-elle chez ces romanciers essayistes? Comment propose-t-il une autre historicité qui, tout en défiant la chronologie, maintient intacte l'idée ou l'idéal de continuité intimement associé à l'histoire du genre romanesque? Dominique Fernandez, dans un essai assez récent, « L'art de raconter », 2006, adopte une stratégie originale, voire paradoxale, en décidant de faire entrer dans l'histoire du roman qu'il écrit les romanciers qu'il affectionne par ordre alphabétique pour contourner justement l'effet de chronologie. Mais plus généralement, il s'agit, la plupart du temps, d'ériger des ponts et des continuums là où, a priori, on ne les imaginerait pas, créant ainsi une sorte de continuité inattendue, pour ne pas dire anachronique, qui déjoue finalement une chronologie, elle, attendue. Ainsi, chez Richard Millet, dans L'Enfer du roman, Dostoïevski a, je cite, « digéré Shakespeare et Dickens », alors que Jacques Laurent choisit de glisser entre, je cite, le sage et Jules Verne, son cher Casanova, dont les mémoires ont les bifurcations internes d'un roman, tandis qu'il pose Balzac en héritier direct de Pétrone. De son côté, Dominique Fernandez fait d'Alexandre Dumas, je cite, « le grand frère de Pirandello ». En outre, cette critique du progrès procède souvent de la valorisation d'œuvres anciennes qui finissent par devenir, dans un renversement anachronique des valeurs, prodigieusement modernes. C'est ce que fait Jacques Laurent dans « Roman du roman » avec le Satyricon qui devient sous sa plume le premier roman moderne. C'est ce que fait Milan Kundera avec les œuvres de Rabelais et Don Quichotte dont il célèbre constamment la jeunesse désinvolte. C'est ce que fait Romain Gary avec le Lazario de Tormes, posé non seulement comme le premier roman, comme l'âge d'or du roman, comme sa forme originelle, dont il souhaite s'inspirer dans l'écriture de son roman à venir, alors qu'au terme « nouveau roman » finit par s'opposer celui de « nouveau roman picaresque ». C'est ce que fait Dominique Fernandez avec l'Odyssée, ce tout premier roman, je cite. C'est ce que fait Félicien Marceau dans le roman « Liberté » avec Homère, premier romancier avec lequel il décide lui aussi de faire commencer le roman, car Homère, je cite, « c'est déjà Balzac, c'est déjà Flaubert, c'est déjà Nathalie Sarraute ». Fin de la citation. Nous nous retrouvons pleinement dans ce que le critique Joël Lair désigne comme des histoires littéraires à rebours, et dans la mesure où ils prennent l'histoire littéraire à contresens, c'est-à-dire à partir d'eux-mêmes, les romanciers essayistes façonnent des histoires du roman parsemées d'anachronismes implicites. Lucien annonçait Cervantes, déclare Jacques Laurent. Tolstoï anticipe Joyce, écrit de son côté Milan Kundera, tandis que chez Richard Millet, l'Odyssée contient déjà, je cite, « tous les romans des siècles à venir ». Chez Jacques Laurent, la princesse de Clèves se pose une question, je cite, « dostoïevskienne, où est le mal, où est le bien ?» Elle se pose une question stendhalienne, « où est mon bonheur ?» Bref, nous sommes ici en plein renversement anachronique des influences. Ce sont les œuvres ultérieures qui influencent les œuvres antérieures, dans leur sens même, à l'intérieur d'une réécriture de l'histoire littéraire qui procède d'une inversion assumée du temps. Ainsi, sur un plan épistémologique, si l'anachronisme est d'emblée conçu comme péjoratif, chez les historiens du moins, il renvoie précisément à une erreur dans la chronologie, à une erreur de chronologie. On pourrait dire que s'opère ici une sorte de renversement qui fait que l'anachronisme acquiert une pleine valeur positive, car en plus de rencontrer bon nombre d'anachronismes implicites dans ces textes, on découvre dans certains d'entre eux une pratique délibérée, ludique et pleinement assumée de l'anachronisme. En voici deux exemples qui concernent tous deux la figure de Don Quichotte. Dans l'art du roman, Milan Kundera, parlant cette fois du château de Kafka, donc roman qu'il adore tout simplement, martèle, est toujours dans un idéal de continuité que, je cite, « c'est Don Quichotte lui-même qui, après 3 siècles de voyage, revient au village déguisé en arpenteur. Il était jadis parti pour choisir ses aventures, et maintenant, dans ce village au-dessus du château, il n'a plus le choix, l'aventure lui est imposée. » Fin de la citation. Romain Gary, dans Pour Sganarelle, pousse la boutade un peu plus loin, soutenant que l'œuvre de Cervantes, je cite, « a succédé avec éclat, avec l'éclat que l'on sait, pardon, au roman balzacien et tolstéen fini du 19e siècle, et que Don Quichotte est la seule œuvre dominante que la seconde moitié du 20e siècle ait vue paraître. Que je cite, « La publication de Don Quichotte de la Manche est un phénomène extraordinairement intéressant pour l'avenir du roman, avant de déclarer évidente, je cite, « l'influence de Kafka sur Cervantes ». Anachronisme ludique qui lui sert à la fois à critiquer son siècle littéraire, Gary déteste en effet la tournure théorique que est en train de prendre la littérature et le roman, à valoriser l'ancien, à brasser l'édifice des catégories et des divisions par siècle, qu'à offrir un modèle dynamique de la lecture, préfigurant du même coup les considérations théoriques d'un Genette, d'une Marthe Robert ou d'un Pierre Bayard sur les phénomènes de lecture anachronique. Or, parallèlement à cette prise à rebours du temps, on relève aussi dans les essais du corpus un processus d'aplanissement du temps historique au profit d'une conception de la temporalité, que j'oserais dire géographique ou spatialisée, qui résulte en un effet de simultanéité, et ce, aux dépens de la droite linéaire chronologique. Je donnerai cette fois un exemple tiré des Testaments trahis de Milan Kundera, qui témoigne bien de ce mode de la simultanéité. Je cite « Les fenêtres ouvertes dans le roman de Kafka donnent sur les paysages de Tolstoï, sur le monde où les personnages mêmes, dans les moments les plus cruels, gardent une liberté de décision qui donne à la vie cette heureuse incalculabilité qui est la source de la poésie. Le monde extrêmement poétique de Tolstoï est à l'opposé du monde de Kafka, mais pourtant grâce à la fenêtre entrouverte, tel un souffle de nostalgie, telle une brise à peine sensible, il entre dans l'histoire de K et il reste présent. » Ouais, ben, il me reste comme une synthèse conclusion et quelques minutes, ça va être...
Oui, c'est
ouais. OK. Dans un essai ou dans l'autre, dans une histoire du roman ou dans l'autre, il semble que nous ne sommes jamais dans un rapport directement linéaire ou chronologique au passé des lettres, encore moins dans un rapport progressiste ou téléologique à l'histoire du roman. Mais en même temps, s'il y a une volonté de dénouer la chronologie, on ne se retrouve pourtant pas dans un parfait désordre. Il ne s'agit jamais d'abolir complètement la chronologie, encore moins l'idée centrale de la continuité. Il s'agit plutôt de la réaménager, de la dire autrement. Un peu comme dans un roman, même usant de prolepse et d'analepse, un romancier n'abolit jamais toute chronologie, et il s'agit toujours d'articuler différents épisodes et leur enchaînement. Et à partir de là, l'histoire littéraire peut devenir un vaste terrain de création, une matière dont s'emparent les praticiens. À l'intérieur de ces réaménagements, les romanciers essayistes osent des rapprochements, pensent des voisinages que le professeur, le critique ou l'historien sérieux peut difficilement faire. Ce faisant, ils instaurent une sorte de dialogue entre les morts, un dialogue entre des auteurs issus d'aires spatio-temporelles distinctes, et ce, bien souvent, à l'intérieur d'une même page, à l'intérieur d'une même phrase. La recherche de l'influence cédant sa place à une pensée de la confluence. Or, ce dialogue, le praticien l'établit toujours à partir de ses préférences et de ses aversions, parfois avec une grande intransigeance, mais toujours à partir de ses propres lectures. De fait, on relève de très nombreuses mises en scène de la lecture dans les essais du corpus, de même qu'une inscription de la matérialité des livres. C'est pourquoi Gustave Aimard, romancier mineur pour bon nombre de critiques et historiens, mérite sa place dans l'histoire du roman configurée par Dominique Fernandez, car, je cite, « à 11 ans, à 12 ans, il est le premier écrivain que j'ai aimé. Je dévorais ses histoires de coureurs des bois et d'indiens, ses aventures rapides et violentes qui avaient pour cadre des paysages grandioses et sauvages. Pour le gamin triste que j'étais, confiné dans le Paris sombre et oppressant de l'occupation, quelle entrée en matière fascinante. » Fin de la citation. C'est pourquoi les premières lignes de Pourzianarelle de Romain Gary s'inscrivent sur le signe de la lecture, ou plutôt de la relecture, je cite, « Commençons par Tolstoï, puisqu'aussi bien il me tombe sous la main. Je viens de relire Gare et Paix, et ma frustration augmente. Cette œuvre accomplie, victorieuse de la réalité, ne fait que creuser mon désir de rivaliser moi aussi avec la puissance. » Fin de la citation. Alors que le romancier essayiste choisit d'entrer dans l'histoire du roman non pas par son début, mais empruntant une porte du milieu. C'est également pourquoi il importe à Jacques Laurent de raconter ce souvenir de lecture dans « Roman du roman » lorsqu'il s'agit de discourir sur les pouvoirs du roman. Je cite « Lisant Colette, je me laissais conduire sur une petite place du village. Cela me rappelait un souvenir. Tel est le pouvoir prodigieux, je pèse mes mots, du roman. Il multiplie notre existence. » Puisqu'il nous fournit des souvenirs parfaitement semblables à ceux que nous faisons pendant l'écoulement de notre vie, de sorte que nous avons vu ça et nous découvrons enfin que le propos ou le spectacle appartenait à un roman. Et que son souvenir avait pris avec le temps la même buée ou la même acidité qu'un souvenir réel. Fin de la citation. Ces nombreuses, très nombreuses mises en scène d'un soi lecteur ouvrent sur la question d'un rapport beaucoup plus individuel à l'histoire littéraire, dans lequel les œuvres et les auteurs convoqués dans ces scènes d'une vie de lecteur ne prennent réellement sens, alors que la chronologie qui finit par s'imposer, est celle de la vie de l'auteur et de ses souvenirs de lecture. Ainsi, il faut bien voir que ce qui est mis de l'avant à travers ces divers bris de la chronologie officielle et ces divers emplois de l'anachronisme, qu'ils soient discrets et implicites ou plutôt ludiques et assumés, c'est bien la temporalité propre de la lecture, de l'acte de lecture et de sa mémoire. Ce primat d'un temps de la lecture, donc par opposition à celui de la publication des œuvres et même de leur réception, a ici dans ces textes deux grands effets, à la fois, je dirais, contraires et très proches. D'abord, celui de lier l'histoire du roman à la mémoire personnelle de chaque romancier essayiste. Ensuite, celui d'un élargissement radical du présent. Le passé des lettres devient un présent, le présent intemporel de la mémoire qui ouvre sur une pensée de la coprésence des œuvres. Or, cette temporalité de la lecture n'est-elle pas, au fond, la vraie temporalité de la littérature? Sa temporalité propre, car, comme le dit ici le critique Christophe Prado, je cite, « Un livre est beaucoup moins situé par la chronologie, par sa date de réception, que par la place mouvante qu'on lui fait dans les édifices complexes de la mémoire. On peut rajeunir une œuvre, faire d'un vieux livre une nouveauté, comme on peut faire passer une nouveauté pour un vieux livre. C'est l'enjeu même de la lecture, où tout se joue toujours au présent dysynchronique de la mémoire. » Fin de la citation. Ainsi, n'est-ce pas au fond le sort même de la lecture qui est d'être anachronique? En effet, tout lecteur arrive à la littérature de manière anachronique, dans une chronologie discontinue, car le lecteur ne découvre jamais un genre des origines à aujourd'hui. La lecture engendre cette espèce de présent perpétuel où Rabelais n'est pas vraiment plus vieux que Balzac, où Balzac lui-même n'est pas vraiment plus vieux que les paritions romanesques les plus contemporaines. Ici, rien du moins qui ait une valeur esthétique, n'est, comme le dit Robbe-Grillet, périmé. Et le vieux roman, comme l'a dit Nathalie Sarraute, ne s'oppose pas au nouveau, et dans cette forme d'historicité, aucune œuvre n'est âgée. En ce sens, on pourrait dire que c'est d'abord à partir d'un soi lecteur que le romancier essayiste réécrit l'histoire, ou plutôt la mémoire du roman, dans lequel évidemment ils chercheront à se situer, à se positionner, cela mériterait un autre développement. Et non d'abord à partir d'un soi écrivain, comme le font directement les nouveaux romanciers. Ce faisant, les figures romancières et les œuvres admirées peuvent coexister, être côte à côte, comme le sont deux livres dans une bibliothèque, comme le sont deux œuvres d'art dans un musée, où l'on peut circuler librement entre elles, car la mémoire des lettres, comme l'a défini Judith Schlagner, se joue toujours au présent, dérobe le passé au passé, pour le restituer dans un présent, lui-même anachronique. Se dessine au fond ici une figure d'écrivain intermédiaire entre deux figures esquissées par Judith Schlagner, la posture du classique, pour qui toute œuvre aimée est éminemment contemporaine et qui nie même tout horizon temporel, et la figure de l'écrivain critique qui manipule habilement, aisément le passé des lettres, précisément dans le but de faire valoir sa nouveauté dans une vision forte de l'avenir. Les romanciers essayistes du corpus sont des écrivains pour qui la pratique personnelle de la création est intimement liée à l'histoire du roman, pour ne pas dire qu'ils ont un attachement sentimental envers celle-ci, mais qui, sans avoir directement la posture du classique, refuse l'historiographie de la nouveauté, celle qui déclare que certaines notions sont périmées et que les œuvres du passé sont soupçonnées. En effet, ayant les deux pieds dans l'histoire du roman, les romanciers essayistes semblent refuser l'histoire même, ses principes même, la chronologie, l'influence, la valeur du progrès, au profit de synchronisme et d'anachronisme. Pourtant, leur premier réflexe pour discourir sur le genre romanesque demeure celui d'en écrire l'histoire. En lecteur, les romanciers essayistes écrivent depuis une sorte d'ontologie des œuvres. Ils sont anhistoriques tout en écrivant néanmoins l'histoire du genre romanesque. Mais est-ce vraiment ce qu'ils font? L'histoire du genre romanesque et la découverte du roman à travers une vie de lecture s'entremêlent pour donner lieu à une forme de mémoire du roman. Et cette mémoire est-elle celle du genre romanesque ou celle de chaque romancier essayiste? Tout porte à croire qu'en voulant écrire à chaque fois la véritable histoire du roman, chacun se trouve à écrire un fragment de sa mémoire. Mémoire dans laquelle le passé est une présence, mémoire qui finit par être imbriquée aussi bien de leurs anecdotes personnelles et de leurs souvenirs de lecture, de leurs aversions et de leurs admirations, parfois même de leurs plaisirs coupables, et par lesquels ils se livrent aussi à une sorte d'autoportrait par l'oblique, pour ne pas dire qu'ils écrivent leur propre mémoire en tant que romanciers. Merci. Désolée d'avoir dépassé.